rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 30 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Un premier débat télévisé houleux hier soir entre Donald Trump et Joe Biden, les deux principaux candidats à la présidentielle américaine. Au Nigeria, 10 soldats, dont 2 officiers, ont été tués dans une attaque mardi près du lac Tchad. Et au Mali, 2 soldats ont été tués dans une embuscade. En Guinée, le convoi du Premier ministre et directeur de campagne d'Alpha Condé a été attaqué à coups de pierre mardi dans le Fouta Djallon. La justice française a rejeté le pourvoi de Félicien Kabouga, accusé de génocide au Rwanda, validant sa remise à un tribunal d'Arusha en Tanzanie. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Donald Trump et Joe Biden, les deux principaux candidats à la présidentielle américaine du 3 novembre, ont tenu hier leur premier débat télévisé. Devant des millions d'Américains, leurs échanges ont tourné à des insultes et attaques personnelles. Un compte-rendu de Mike O'Sullivan relaté par Michel Joseph.
Pour ce premier débat, le début serein s'est rapidement transformé en échange houleux sur des sujets comme le Covid-19 qui a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis. Joe Biden, le candidat démocrate.
The president has no plan.
Le président n'a pas de plan. Il n'a rien prévu. Il savait depuis février à quel point cette crise était grave.
La réplique du président Donald Trump ne s'est pas fait attendre.
We got the gowns, we got the masks.
Nous avons les blouses, nous avons les masques, nous avons fabriqué des respirateurs. Vous n'auriez pas fait de respirateurs et maintenant nous sommes à quelques semaines d'un vaccin.
Biden a fustigé les efforts de Trump pour mettre fin à la loi sur les soins abordables appelée Obamacare qui fournit une assurance maladie à quelques 20 millions de personnes. Donald Trump répond que cette loi était inconstitutionnelle et limitait le choix des consommateurs. Joe Biden promet que les électeurs pourront conserver leur plan de santé dans le cadre de son projet d'expansion d'Obamacare.
They can. They do.
Ils peuvent. Ils le font. Ils le feront selon ma proposition.
L'échange a rapidement dégénéré, Trump accusant Biden de promouvoir une médecine socialiste.
Obamacare is no good.
Obamacare n'est pas bon. Nous l'avons amélioré.
Autre point de discorde, le choix du président Trump de pourvoir un siège à la Cour suprême laissé vacant par la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, une icône progressiste. Monsieur Trump a nommé la juge conservatrice Amy Coney Barrett, lançant un processus de confirmation au Sénat alors que le vote a déjà commencé dans de nombreux États. Joe Biden estime que quiconque gagne en novembre devrait nommer le siège vacant à la Cour suprême.
Le peuple américain a le droit d'avoir son mot à dire sur l'identité du candidat à la Cour suprême.
Trump répond qu'il était de son devoir de choisir une remplaçante, quel que soit le moment.
Nous avons gagné les élections et nous avons donc le droit de la choisir.
Le rideau est donc tombé sur le premier round et 2 autres débats sont prévus en octobre.
Donald Trump et son adversaire Joe Biden retournent sur le terrain après ce premier débat d'une rare agressivité. Le président Trump se rend en meeting ce soir dans le Minnesota, tandis que Joe Biden se rend en train en Pennsylvanie. Au lendemain de ce débat, Arzuma Compaoré a recueilli la réaction de Junior Bonpetit, président de l'association congolaise For Trump.
Particulièrement nous les Africains, on attendait des thèmes comme l'immigration et tout ça. Mais sinon, on a saisi, on a parlé des thèmes comme la Covid-19 et c'était le président bien développé. Le président était vraiment impec. Il a fermé le pays pour préserver les vies et il a aussi commencé à ouvrir ça au moment opportun. Et aussi, il va parler sur l'économie. Et avant la pandémie, on avait eu la meilleure économie du monde aux États-Unis. Et le président Trump a ramené les taux. L'emploi, le chômage à moins de 3%, à moins de 5%, à 3%, et le taux le plus bas depuis 50 ans. Alors, le président a démontré sa capacité, comment réouvrir l'économie, et nous voyons comment l'économie est en train de remettre sur les rails. Et lorsque vous voyez toutes les unions, toutes les associations, des policiers, de l'armée, sont derrière Staline, derrière le président Trump. Parce que c'est vrai que la police n'est pas parfaite, Mais nous ne devons pas dénigrer notre police, parce que ces pays sans la police, il y aura un chaos, ça plus qu'un affaire. Alors nous devons pousser les agents de l'ordre qui sortent nuit et jour pour notre sécurité, ils mettent leur famille, leur vie en jeu. Alors le président Trump est là comme un bon père de famille pour protéger tous les Américains.
Junior Bonpetit, président de l'association congolaise for Trump, et John Linden a joint New York Dame Babou, président d'African Communication Network, qui suit de près le camp démocrate.
Dit-on, je pense que Donald Trump a cherché dès le départ à énerver le vice-président, ancien vice-président Joe Biden. Et je ne pense pas non plus que Donald Trump était venu avec un plan de débat, c'est-à-dire avec des idées, avec un programme, une justification d'un deuxième mandat. Et je pense aussi qu'il a fini par croire à ses propres déclarations comme quoi Joe Biden n'est pas physiquement apte, n'est pas mentalement prêt pour être président de la République. Donc ça, je pense que ce sont les premières constatations. Et apparemment, si c'était ça, effectivement, l'objectif de Donald Trump, je ne suis pas sûr qu'il l'ait atteint.
Dame Babou, journaliste et stratège en communication à New York.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, 10 soldats, dont 2 officiers, ont été tués dans une attaque djihadiste contre un convoi militaire mardi dans les environs de Marthe, près du lac Tchad. 8 autres soldats ont été blessés dans cette embuscade, indique l'armée. Le convoi apportait des vivres et des équipements à des troupes stationnées dans la zone. Les assaillants se sont emparés de la cargaison et ont mis le feu à 2 véhicules avant de s'enfuir dans la brousse. Au Mali, 2 soldats ont été tués et 6 blessés mardi dans une embuscade dans le centre du pays, a indiqué ce mercredi un responsable des services de sécurité. Les soldats sont tombés dans un guet-apens entre Douenza et Boni, a-t-il expliqué sans évoquer les auteurs de l'attaque. Les attaques contre l'armée se sont poursuivies depuis le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août. En Guinée, le convoi du Premier ministre et directeur de campagne d'Alpha Condé a été attaqué à coups de pierre mardi dans la région du Fouta Djallon, selon le gouvernement, affirmant que le cortège d'Ibrahima Kassori Fofana a essuyé ses jets de pierre à l'Abé et à Dalaba. Cette région est un bastion de Sélou d'Alain Diallo, principal adversaire du président sortant à l'élection du 18 octobre. L'UFDG, le parti de Sélou d'Alain Diallo, dit n'avoir rien à voir avec ces incidents. Les autorités ivoiriennes ont confirmé la nomination de Jean-Christophe Béliard comme nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, en remplacement de Gilles Huberson, rappelé à Paris pour comportement sexiste présumé. La venue de M. Béliard n'a pas été précisée. La Cour de cassation française a rejeté le pourvoi de Félicien Kabouga, accusé d'avoir financé le génocide au Rwanda et arrêté en mai près de Paris, validant ainsi définitivement sa remise à la justice internationale. La juridiction a confirmé la décision rendue en juin par la Cour d'appel de Paris, qui a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt visant à transférer Kabouga à Arusha, en Tanzanie, où siège le tribunal onusien qui doit le juger. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers du jour. L'Organisation internationale des migrations a indiqué qu'elle ouvrait à son tour une enquête sur des accusations d'agression sexuelle liées à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, après que l'OMS a fait de même la veille. L'OIM a précisé qu'elle allait immédiatement mener des investigations sur l'un de ses employés contre lequel ont été portées de sérieuses accusations. En Égypte, 6 membres des Frères musulmans ont été condamnés à mort par un tribunal de Zagazig pour des meurtres de policiers. 5 étaient jugés par contumace. 7 autres personnes ont été condamnées à des peines de 5 à 10 ans de prison. Le chef du Pentagone, Mark Esper, en visite en Afrique, a signé un accord de coopération militaire sur 10 ans avec la Tunisie, saluant un rapprochement pour faire face à la situation en Libye. Nous nous réjouissons d'approfondir cette relation afin d'aider la Tunisie à protéger ses ports et ses frontières et à combattre le terrorisme, a déclaré M. Esper après avoir rencontré le président Kais Saied. 300 Marocains bloqués dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla depuis la fermeture de la frontière avec le Maroc en raison de la pandémie ont pu revenir dans leur pays. 200 personnes ont quitté Melilla en gardant les distances de sécurité, indiquait un porte-parole de la préfecture. Un autre groupe partira vendredi afin de laisser le temps aux autorités marocaines de faire des tests de Covid-19. L'Irak dit ne pas approuver la menace de Washington de fermer son ambassade et de retirer ses soldats et diplomates du pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, un retrait américain pourrait mener à plus de retraits d'autres pays également engagés dans la lutte contre le groupe État islamique, ce qui serait dangereux car ce groupe menace l'Irak mais également toute la région. Bagdad dit espérer que les États-Unis reviendront sur leur décision qui est pour l'instant préliminaire, a encore dit le chef de la diplomatie irakienne. Plusieurs sources politiques et diplomatiques ont confirmé à l'AFP que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait posé la semaine dernière un ultimatum à l'Irak, soit les attaques, notamment les tirs de roquettes visant son ambassade à Bagdad, cessent, soit Washington ferme son ambassade et rappelle ses 3000 soldats et ses diplomates. D'octobre 2019 à juillet 2020, une quarantaine d'attaques à la roquette ont visé l'ambassade américaine et des bases irakiennes abritant des soldats américains. Les attaques contre les intérêts américains sont depuis quelques mois revendiquées par d'obscurs groupes qui disent agir pour bouter hors d'Irak ce qu'ils appellent l'occupant américain.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talen.
Le Ghana a produit 770 000 tonnes de cacao cette année, soit une baisse de 42 000 tonnes par rapport à l'an dernier. Ce volume représente le plus faible niveau de production de l'or brun enregistré par le Ghana depuis 5 ans, rapporte l'agence Bloomberg. D'après les autorités, ce recul s'explique par des épisodes de sécheresse et les ravages du virus du Solène chaude dans les plantations, surtout dans la région du Nord-Ouest. Pour terminer, la compagnie aérienne nationale namibienne veut réduire de moitié les salaires de son personnel alors qu'elle se prépare à reprendre ses vols après 6 mois d'interruption. La pandémie a exacerbé les difficultés financières d'Air Namibia qui n'a pas enregistré de bénéfices ces 5 dernières années. La compagnie vit des aides gouvernementales et a besoin d'environ 414 millions de dollars pour rester en vol. Elle a 10 avions et environ 800 employés.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. On commence par du football. À RDC, la reprise du championnat de football, c'est dans quelques jours. Et selon nos confrères de Foot Africa, le TP Mazembe s'active sur le marché des transferts. Ce mercredi, le Corbeau de Lubumbashi ont ainsi officialisé pas moins de 4 arrivées. D'abord, celle de Cédric Martial Zemba Ikong, âgé de 21 ans. Ce milieu de terrain camerounais arrive en provenance d'Apedias FC de Moufou du Cameroun. Il a signé jusqu'en septembre 2025, selon Foot Africa. En parallèle, le TP Mazembe a officialisé l'arrivée de Mustapha Kouyaté, âgé de 26 ans. Cet attaquant guinéen a été recruté à Muscat Club d'Oman et débarque avec l'étiquette du successeur de Jackson Muleka, vendu au Standard de Liège. Il a également signé pour 5 ans, d'après Foot Africa. Neymar, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, est inscrit sur la liste noire du fisc espagnol pour une dette dépassant les 34 millions d'euros, selon un document officiel énumérant les mauvais payeurs publiés mercredi sur le site du Trésor public espagnol. Le nom de Neymar da Silva Santos Junior apparaît ainsi parmi des milliers d'autres sur une liste de débiteurs. auprès des finances publiques espagnoles pour un montant de 34 624 000 euros, faisant de lui le particulier ayant la dette la plus importante auprès du trésor public espagnol.
Merci beaucoup, Bagassi, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Guinée, des heurts ont opposé mardi les forces de l'ordre à des manifestants contestant la candidature du président Alpha Condé à un troisième mandat. En Côte d'Ivoire aussi, la perspective d'un troisième mandat pour le président Alassane Ouattara fait craindre des violences. Dans une déclaration commune, des organisations de la société civile ouest-africaine se disent inquiètes pour la stabilité de la sous-région. Mohamed Oumfa a joint à Dakar Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Yen Amar, signataire de cette déclaration.
Cette problématique des troisième mandats est un vrai cancer pour la sous-région ouest-africaine. On voit actuellement ce qui se passe en Guinée. Alpha Condé force un troisième mandat malgré le refus du peuple qui se mobilise pour créer une situation d'instabilité en Guinée. À cause de ce projet de troisième mandat de Ouattara, s'il y a de l'instabilité en Côte d'Ivoire, aucun pays de la sous-région ne sera épargné. Et on voit aussi toute la situation d'insécurité avec les menaces terroristes, le djihadisme dans certaines zones de notre sous-région, créer une instabilité dans nos pays de la sous-région. Ça crée le terreau en fait qui favorise l'avancée en fait de tout ce qui est djihadisme et terrorisme. Vous voyez ce qui se passe au Mali avec toutes les difficultés qu'il y a. Vous voyez au Sénégal avec Macky Sall qui n'est pas encore clair sur cette question-là. Les gens soupçonnent cette volonté-là.
Oui, en Guinée, justement, les manifestants s'opposent depuis hier aux forces de l'ordre. En Côte d'Ivoire, plusieurs partis de l'opposition appellent à la désobéissance civile. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure façon de résoudre ce problème de mandat? Comment faire?
Pour nous, la clé, c'est les citoyens de la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO des citoyens et des peuples puisse harmoniser en fait ses positions, y aller ensemble dans le cadre d'une dynamique des peuples de la sous-région pour barrer la route en fait à tous ces projets de troisième mandat. Parce qu'en fait, c'est les présidents, c'est comme s'il se passait le mot, il y a un phénomène de contagion qu'il faut stopper et la meilleure manière de la stopper, c'est qu'il y ait cette forte coalition en fait des peuples de la sous-région à travers toutes les organisations de la société civile et aussi les mouvements citoyens qui vont dans les semaines à venir avoir un agenda commun et poser des actes unitaires à l'échelle de l'espace CEDEAO.
Dans une déclaration des organisations de la société civile ouest-africaine, vous invitez les Nations Unies à passer du principe de subsidiarité à l'action directe. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Mais en fait, à chaque fois que le FNDC ou dans nos pays, les dynamiques citoyennes qui font face en fait au tripatriage constitutionnel ou au projet de troisième mandat, qui subissent en fait les exactions de ces tyrans-là, à chaque fois que l'ONU est saisie, l'ONU dit non, c'est la CEDEAO qui est compétente, qui doit se déployer, mais on sait que la CEDEAO ne fera rien du tout parce que la conférence des chefs d'État est composée pour la plupart de ces chefs d'État même qui constituent le problème, qui veulent briguer un troisième mandat. Donc du coup, l'appel à l'endroit de l'ONU, c'est de prendre ses responsabilités, donc c'est ça.
Aliou Sané est le coordonnateur du mouvement Yen Amar au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
À un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'opposition qui est contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara, continue de menacer de boycotter l'élection, tandis que le président sortant affiche sa volonté de rassurer sur la tenue du scrutin prévu le 31 octobre. Notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diarra, dresse un plan du climat politique actuel dans le pays.
Le président ivoirien Alassane Ouattara, lors de ses nombreuses tournées à travers la Côte d'Ivoire, a rassuré les Ivoiriens quant à la bonne tenue des élections présidentielles dans la paix et la tranquillité. Cependant, l'un de ses adversaires politiques, Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale, dit tout le contraire.
Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire si le cadre électoral n'est pas transparent, démocratique et inclusif.
Des menaces qui sont appréhendées de différentes manières par les Ivoiriens. Abdoulaye Sissé, résident au quartier Belleville de Boaké, dit garder toute sa sérénité pour ces élections à venir.
Ce ne peut rien ménager. S'il va ménager, il n'a qu'à venir. Saisi, il est né, c'est son pays. Si tu viens, tu vas ménager. Ah, on va voir ceux qui vont lui suivre.
Allant dans le même ordre d'idée, Mawa Ouattara, résidente à Boaké, Air France, dit ne pas tenir compte des bruits qui courent.
Je n'ai pas du tout peur des élections. Parce que avec les rumeurs, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il y a d'autres qui sont là, qui parlent pour faire peur aux gens. Ça, on le sait.
Kassim Ouattara, lui, il est du quartier commerce de Boaké. Il se réfère au passé de crise de la Côte d'Ivoire pour justifier sa sérénité pour ses élections à venir.
Personne ne peut nous dire ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous, on était à Boaké. Ça a commencé, ça a... Nous, à la fin, nous, on était à Boaké. Donc, on sait ce qu'est la guerre. Ceux qui parlent de la guerre, là, ils ne connaissent pas la guerre.
Certains, malgré la peur au ventre, essaient de vivre comme si de rien n'était. Moussa Kofi est un résident du quartier Belleville de Boaké.
À vrai dire, une petite psychose, je peux dire. Voilà, on essaie d'être positif, mais bon, ça et là, il y a des sorties de certaines personnes de la classe politique qui nous font un peu peur, voilà. J'essaie psychologiquement de passer la chose, vu les antécédents qu'on a eus, voilà. On n'a pas envie de se replonger, soit même vers le bas. On essaie de penser vraiment positif.
Une peur qui tend à affecter la vie de certaines personnes, à l'image de Mam Ndiaye du quartier Dar es Salaam, qui a du mal à inscrire ses enfants en cette rentrée scolaire.
Depuis l'école a commencé, je ne suis pas partie inscrire mes enfants. Vraiment, je suis peur un peu. Mes enfants, même, ils sont en train de m'encourager pour dire que maman, on va partir à l'école, ça va aller, tant, tant, tant. Mais vraiment, je suis peur.
C'est la période de la pré-campagne en Côte d'Ivoire. La campagne électorale est prévue pour le jeudi 15 octobre à minuit et prendra fin le jeudi 29 octobre à minuit. Pendant ce temps, l'opposition ivoirienne s'est unie en un front pour faire barrage à la tenue des élections du 31 octobre 2020. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
La Cour de cassation de Paris a confirmé la remise du présumé génocidaire rwandais Félicien Kabuga au mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux à Arusha en Tanzanie. Cette instance a été créée pour poursuivre les affaires non jugées par le TPIR depuis sa dissolution. Kabuga a été arrêté récemment, donc en mai, près de Paris, après 25 ans de cavale. Eric Manirakiza a joint à Philadelphie le chercheur sur les questions de génocide Jean-Pierre Karegeye.
Extrêmement important dans le cas du génocide contre les Tutsis. Comme vous savez, il est considéré comme le financier du génocide. Il a importé beaucoup de tons de machettes. Il était un des principaux actionnaires de la radio-télévision de Nicolille, etc. Et puis il se chargeait aussi du transport des miliciens. Donc pour plusieurs raisons, je crois qu'avoir quelqu'un qui est considéré comme un des cerveaux du génocide, c'est important. Et je dirais que ça aurait été même beaucoup plus important qu'il soit jugé au Rwanda.
Il a réussi à échapper à la justice pendant au moins 25 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une justice tardive aujourd'hui?
Oui, s'il a pu s'échapper, c'était avec la complicité de plusieurs gouvernements dans plusieurs pays, commençant d'abord par le Kenya, le Congo de l'époque, le Zaïre donc, et plusieurs pays, la France bien sûr, et plusieurs pays du monde. Donc, et il n'y a pas que Kabuga quand on dit tard, oui, tard, mais parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs génocidaires qui sont encore protégés dans le monde, dans plusieurs pays.
Kabuga reste un présumé innocent. Aujourd'hui, on parle qu'il y a de nombreuses inconnues qui planent avant un procès. Quel est votre commentaire?
Pour le moment où il n'est pas encore jugé, il reste présumé innocent, ça c'est un fait. Mais déjà en 2011, je crois, et le tribunal pénal international pour le Rwanda, donc il y avait déjà au moins 7 charges, 7 chefs d'accusation contre Kabuga.
son arrestation ou son jugement est-ce une victoire contre le génocide? Comment vous l'interprétez?
Je dirais que c'est justice pour les victimes. C'est important dans la mesure où les victimes tutsis sont des humains et puis on se dit que ce qui s'est passé au Rwanda aussi devrait concerner n'importe qui partout dans le monde. C'est important surtout actuellement où il y a un mouvement négationniste qui prend racine dans plusieurs pays et qui se développe quand il y a des gens de plus en plus et non plus honte, sans vergogne se permettent par exemple de nier ce génocide ou de s'attaquer encore au Tutsi, de dire que j'étais un refait, ils le feraient. Donc de plus en plus, vous allez en ligne, il y en a, c'est effrayant, et des gens à visage découvert. Ils s'attaquent, ils disent, voilà, allez tuer tous les petits, ça se dit encore. Et je crois que pour un tribunal pénal international ou la communauté internationale, pour donner sens même à l'arrestation de Kabuga, consisterait aussi à faire arrêter d'autres génocidaires qui courent par-ci par-là, et surtout s'attaquer vraiment au négationnisme, et ce serait une façon de prévenir d'autres massacres et de génocide.
Jean-Pierre Carré-Gueillet, chercheur sur les questions de génocide et professeur au Collège Dickinson en Pennsylvanie. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont été pendant longtemps le plus généreux fournisseur d'aide sanitaire et humanitaire au monde. Cette assistance est fournie avec le soutien du contribuable américain dans l'espoir que cela servira à un objectif utile et parviendra aux personnes nécessiteuses. Malheureusement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a gravement échoué, non seulement dans sa réponse au COVID-19, mais aussi à d'autres crises sanitaires ces récentes décennies, a dit le porte-parole du département d'État, Morgan Ortegas, dans une déclaration. En plus de cela, l'OMS a refusé d'adopter des réformes urgentes, à commencer par démontrer son indépendance vis-à-vis du Parti communiste chinois. Résultat, les États-Unis ont annoncé leur date effective de retrait de l'OMS pour le 6 juillet 2021. L'engagement des États-Unis concernant l'aide sanitaire à l'étranger demeure fort. Durant la période menant à ce retrait, l'administration examine des moyens de mobiliser l'expertise de certains départements et importantes agences du gouvernement américain et du secteur privé pour apporter rapidement un soutien aux autres pays pour prévenir, détecter les épidémies des maladies infectieuses, y répondre à la source et répondre aux urgences humanitaires. Depuis 2001, le gouvernement des États-Unis a contribué plus de 142 milliards de dollars pour aider à prévenir, détecter et traiter le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, l'Ebola et d'autres maladies infectieuses. Nous fournissons en moyenne 10 milliards de dollars par an à la santé mondiale et cette année, cela va doubler alors que nous intensifions la lutte contre le COVID-19 dans le monde entier, a dit l'administratrice adjointe de l'USAID pour la santé mondiale, Dr Alma Golden. Les États-Unis sont déterminés à assurer que le retrait de l'OMS n'affecte pas le niveau général de leur aide sanitaire aux plus vulnérables. Les États-Unis sont en tête de l'assistance sanitaire et humanitaire grâce à l'effort de tous les Américains. et nous sommes engagés à assurer que notre générosité touche directement les populations à travers le monde, a ajouté Dr. Gordon.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.